voix nue. Cette semaine, Johanna Bedeau rencontre Emmanuel De Vos. Ce soir, comme une enfant sauvage.
Pour évoquer avec nous votre parcours et vos souvenirs, vous nous avez ouvert les portes de votre maison en plein cœur du Val-de-Marne. C'est là que vous vivez, à l'abri du tumulte parisien, entouré de vos livres et de vos souvenirs d'enfance. Mère de deux jeunes adultes, partie depuis quelques années maintenant, vous avez refait votre vie amoureuse avec le comédien Jean-Pierre Lory. Alors sans tout dévoiler, je peux dire que vous êtes née le 10 mai 1964 à Puteaux, dans le département des Hauts-de-Seine, que vous êtes la fille de la comédienne Marie Henriot et de Jean-Michel De Vos, et que vous grandissez à Paris, dans le quartier des Invalides, avec votre sœur Valentine, et que c'est très naturellement que vous vous dirigez vers le théâtre après avoir arrêté vos études à l'âge de 16 ans. Tout en enchaînant les petits boulots, vous suivez les cours Florent, des cours qui vous ont reconstruite et vous conviennent enfin. C'est une rencontre importante avec Noémie Lvovsky et Arnaud Desplechin au début des années 90 qui donnera un autre tournant à votre vie, le point de départ d'une très belle carrière au cinéma et sur les planches, où vous multipliez les registres et les récompenses. Une vie pleine de recherches et d'agitation intellectuelle. Bonsoir Emmanuel De Vos.
Bonsoir.
Quand on est face à une femme comme vous, on se demande quel enfant étiez-vous ? Quelle place aviez-vous dans votre famille ? Quels sont vos souvenirs comme ça d'enfance, de cette vie familiale ?
Alors, c'est en plusieurs parties. Mes parents, mon père et ma mère, se sont séparés assez tôt. Donc on s'est vite retrouvés, ma sœur aînée Valentine, maman et moi. Nous vivions dans un appartement qui faisait partie d'un bloc, d'un immeuble dans le 7e arrondissement, où vivait toute ma famille paternelle. Mon père n'habitait pas très loin, mais ils étaient quand même séparés. Donc pour moi, il y a plusieurs enfances. Il y a l'enfance, donc ce trio avec maman, Valentine, à Paris. Et puis il y a l'enfance, j'ai été beaucoup chez mes grands-parents paternels. Voilà, c'est plusieurs petits îlots comme ça qui se marient très bien. C'est une enfance plutôt très heureuse, assez libre. Très tôt, maman nous laissait jouer dans la rue. Enfin, il y a vraiment comme ça une grande liberté. Qu'est-ce que je peux dire ? Enfin, je sais pas, c'est une enfance un peu très parisienne et très avec des grands séjours à la campagne. Et avec une maman qu'on adore, vraiment, une sorte de pivot central, un père un peu plus, très aimant, mais un peu plus éloigné, et puis des grands-parents très très présents, comme beaucoup d'enfants, je pense, à l'époque.
Et alors cette avenue Tourville, rue Bosquet, rue Chauvet, rue Saint-Dominique, le 7e arrondissement de Paris, le jardin, c'est le Champ de Mars où vous allez jouer des après-midi entières avec votre sœur Valentine. C'est un quartier que vous affectionnez.
C'est un quartier que, mais je pense qu'on toute personne aime le quartier de son enfance. Mais là, je pense que on n'est pas né, c'est pas rien. On est quelque part et ça vous marque à vie. Je me souviens par exemple, ça me fait rire parce que j'y ai pensé il y a pas longtemps. Je racontais à une amie dans ce quartier-là et je me disais mais c'est fou parce que quand on prenait le bus par exemple pour aller à Montparnasse c'était le Bronx. C'était vraiment l'endroit mal famé, mais quand on y pense maintenant, c'est quand même très drôle. Et c'était un quartier merveilleux. Et ce qui était drôle aussi, c'est que donc toute ma famille était dans le même immeuble. Donc tout était très facile comme ça. Tout était. J'allais chez ma grand-mère à la sortie de l'école, elle me faisait un goûter, et puis après je repartais chez maman. Enfin voilà, tout c'est un quartier. Très, très familial, très. Je me souviens, ma grand-mère allait faire ses courses rue Claire, revenait en disant oh, chez Davoli, j'ai vu Madame Veil avec ses grands-fils. Parce qu'il y avait Simone Veil habitait place Vauban, là, juste en face des Invalides. Donc voilà, c'était. C'est pour moi toujours un quartier. Je ne sais pas si j'aimerais y revivre, mais c'était un quartier très. Le Champ de Mars, ouais, immense. Immense, c'est un terrain de jeu fantastique. Il faut aller jusqu'à la Tour Eiffel.
Et vous passez d'un appartement à l'autre, comme ça, très libre, insouciante, et votre mère laisse toujours la clé sur la porte.
Oh, maman laissait la clé sur la porte. Quand on y pense, il n'y avait pas de digicode, il n'y avait pas de. Il y avait on a l'impression de vivre. En fait, c'était une vie sans danger jusqu'au jour où je pense que c'est ma sœur devait avoir 10 ans. Une petite fille de sa classe a été attaquée, violée chez elle. Sa mère travaillait dans un restaurant, je me souviens. Donc elle laissait sa fille seule le soir et cette petite fille a été violée quoi par un homme qui s'était introduit dans l'appartement. Donc à partir de ce moment-là, maman était un petit peu enlevée la clé de la serrure. Là, c'était moins safe.
Et c'est votre grand-mère, Emmanuelle De Vos, qui vous apprend à lire quand vous dites comme ça que vous passez d'un appartement à l'autre. On imagine très bien cette grand-mère qui sort son livre. Alors, elle vous apprend à lire avant d'entrer au CP. C'est elle qui vous donne ce goût pour la lecture, Emmanuelle De Vos. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là où vous vous rendez compte que vous aimez rentrer dans des univers, peu importe le livre?
En tout cas, je sais que je me vois encore dans le salon de mes grands-parents avec le livre de lecture qui devait donc dater de la guerre, le livre d'apprentissage de la lecture de mon père. Et ma grand-mère qui aimait beaucoup lire aussi, alors qu'elle-même venait vraiment du fin fond de la Dordogne, avait été élevée dans une ferme. Enfin bon, c'était bon, voilà. Mais pour elle, je pense que la lecture a été très importante et elle m'a transmis ça. Pour elle, la lecture, c'est un espace de liberté, d'imagination, de rêve, alors qu'elle a eu une vie de travail quand même assez difficile. Et elle m'a transmis ça très vite. Et donc, j'ai su lire très tôt avant d'entrer en CP. Et ça a été le début la vie parallèle de la lecture. Vous avez votre vie d'enfant, puis vous avez votre vie imaginaire, ou de la vie construite par Enid Blyton, par Elizabeth Goodge, enfin tous les auteurs de littérature enfantine qu'on pouvait commencer à lire à 6 ans, en commençant par Oui Oui, enfin le Club des Cinq, le Clan des Sept, toute la Bibliothèque Rose, toute la Bibliothèque Verte, toutes les Alice. Pour moi, ça c'est un souvenir, mais extraordinaire. Ça m'a construite vraiment complètement.
Et ça ne s'arrête plus jusqu'à aujourd'hui. Vous lisez tout, même les romans noirs?
Non, je ne lis que Heinrich Mankell et Arnal Dur. Mais oui, non, les romans noirs, c'était pas trop mon truc. C'est Mathieu Amalric qui m'a fait découvrir ça un jour par hasard. Nous tournions à Lyon, on a pris le train et puis on était dans le relais. Je cherchais un livre et il m'a dit mais essaye ça. Arnald Durindridason, c'est du roman noir islandais, c'est super. Et c'est un peu le Simenon islandais. Moi j'ai une passion pour Simenon, j'ai une passion pour le commissaire Maigret. Je trouve un personnage insensé, porteur de plein d'émotions. Enfin Simenon c'est pour moi un des plus grands. Et voilà. Mais oui, je lis moins. J'ai même quelquefois des regrets de cette plongée dans les livres que je pouvais avoir enfant ou même adolescente. Il y a quelque chose de tellement entier où on part complètement avec un livre et j'ai du mal à retrouver ça.
Sans jugement avant.
Ouais, j'ai du mal à avoir cette concentration-là. C'est maintenant il m'en faut un peu plus quoi pour le dernier livre comme ça qui m'est happé totalement c'est Le Mur Invisible de je me souviens jamais son nom c'est une auteure autrichienne pas du tout connue voilà mais sinon c'est difficile de retrouver cet état là de lecture enfantine très particulière.
Très jeune, Emmanuelle De Vos, vers vos 8-9 ans, vous rêvez comme une comédienne déclamant déjà des grands textes. Vous rêvez de théâtre. Est-ce que déjà à ce moment-là, vous aimez les mots?
Moi, je suis une enfant de la balle. Hein. Donc le théâtre, j'ai connu ça très très tôt. Et ça a dû venir de là, d'être confrontée aux grands textes. Quand vous allez voir vos parents en répétition, des choses comme ça, vous voyez... C'est familier, c'est pas quelque chose qui est en distance, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie. Et vous vous rendez bien compte que ces personnes que vous voyez répéter ou que vous voyez sur scène peuvent s'exprimer comme ça grâce à des mots qui ne sont pas les leurs. Et j'imagine que ça a dû m'influencer parce que j'ai des souvenirs, mais vraiment très très tôt, dans ma chambre, avec une brochure et à jouer toute seule, à prendre un Marivaux ou un... ou je sais pas, Molière, j'en sais rien, et être là à dire des textes toute seule, comme une folle, là, comme ça, mais je devais avoir 8-9 ans, C'est étrange. Enfin, c'est une vocation très, très, très précoce. Très, très précoce.
Quand on vous entend, on entend bien en tout cas l'enfance heureuse dans une famille de comédiens où la parole avait l'air d'être très, très libre. Mais quand même, vous avez ces moments-là où vous sentez que vous avez besoin de vous isoler, notamment de ce que vous venez de dire dans les livres. Est-ce que vous êtes une enfant timide?
Alors, mon papa m'a dit un jour, non mais tu n'étais pas timide, c'était de la sauvagerie. Donc, on va dire que j'étais une enfant sauvage. Moi, je pense que j'étais timide quand même, parce que je n'aimais pas du tout parler aux grandes personnes. Je sais, quand on me demandait d'aller acheter du pain, je checkais avant dans les couloirs si j'entendais pas les voisins descendre. J'ai écrit un texte là-dessus, d'ailleurs, qui est assez drôle, complètement labyrinthique, où j'écoutais, et si j'entendais personne, je filais vers la sortie le plus vite possible pour surtout ne rencontrer personne. J'avais une vraie phobie des adultes. Et, enfin, pas tous, mais certains. J'ai le souvenir d'avoir été très timide. Et maman me dit que oui, peut-être que j'étais timide, mais j'étais une enfant très gaie, un peu capricieuse, paraît-il, et assez, mais très mignonne. Il y avait ma sœur. Mais j'ai un souvenir quand même, oui, de solitude déjà très tôt. Une solitude d'enfant, mais très heureuse, hein. Pas du tout quelque chose de mal vécu.
Comme quelque chose d'un peu parallèle ou qui pourrait ressembler peut-être au monde des livres dont vous parlez.
Le besoin de se mettre à l'écart, de partir dans un monde imaginaire.
Est-ce qu'il y a des traces comme ça que vous, à l'âge adulte, de ces besoins de s'isoler ou de s'extraire du monde dans lequel vous êtes en train de participer là à l'instant présent?
Oui.
Il reste des traces?
Bien sûr, tout le temps. Enfin, je peux pas aller. Je ne peux pas aller à une soirée sans qu'il y ait un moment où. Enfin, c'est un peu difficile pour moi. Il y a des événements, des endroits où il y a un peu du monde, mais même chez des amis, hein, il y a toujours un moment où j'ai envie de m'isoler. C'est compliqué. Ça reste un peu compliqué. Mais je le vis bien, parce que je ne trouve pas que ça soit anormal.
Moi, ça ne fait pas souffrir.
Non, mais surtout, ce que je trouve anormal, c'est les gens qui veulent tout le temps être avec du monde. J'ai dit, mais vous n'êtes pas bien avec vous-même. Il y a un problème, ça ne va pas. Vous ne vous aimez pas. Ou vous n'avez rien à vous dire à vous-même. Mais c'est... Moi, je dose assez bien une vie sociale et une vie en retrait. Pour moi, ça me va comme ça.
Et puis ces états émotionnels dont vous parlez, ou en tout cas cette timidité, ça n'empêche pas d'avoir confiance ou d'être déterminé.
Moi, je pense qu'à partir du moment où vous avez un père ou une mère, moi c'est plus vraiment ma mère, qui vous comprend, vous aime comme vous êtes et vous explique un peu qui vous êtes, ça vous sauve. Ça vous sauve. Si j'étais tombée dans une famille où on me houspillait toute la journée pour me sortir de ma chambre en me disant « mais arrête de lire et va jouer dehors », ce qu'on faisait un peu, mais pas tant que ça, je pense que je ne serais pas la personne que je suis. Mais une mère, une maman très compréhensive et une sœur qui s'occupe un peu justement de ça, de vous faire sortir, de... J'avais quand même ma sœur, hein. J'étais pas toute seule, donc quand je voulais jouer, elle était dans la chambre à côté. Donc ça allait bien.
Et puis des copines.
Oui, je suis une solitaire qui a une grande envie de rencontrer les autres, quand même. Et qui, j'ai toujours eu le pif pour m'acoquiner avec des filles très populaires. Que ça soit en primaire ou après au collège, j'étais avec les plus délurées. Et je les remercie encore chaque jour que Dieu fait, parce que je vois toujours notamment ma meilleure amie Marie Munoz qui était en seconde avec moi, qui m'a ouvert des champs de sociabilité invraisemblables. Et donc j'avais cet instinct-là bien malin pour ne pas finir seule, encroûtée entre trois piles de livres. Pour me faire prendre l'air, ouais. De choisir des gens qui m'emmenaient un peu ailleurs.
Ça, c'est des moments importants aussi dans votre vie.
Très, très important. Bah, c'est toujours pareil, c'est les enfants de la balle, donc on suit les parents. J'adorais parce qu'on partait toujours avant la fin des cours, donc on partait vers le 20 juin. Et on allait à Albi, qui était la première étape de ce festival populaire de théâtre. Et là, on faisait partie de la troupe, quoi. Les enfants des acteurs étaient là. On aidait un peu au costume, un peu à la lumière, un peu, on faisait une figuration, un peu, on fait. On essaye de pas gêner, on apprend à pas gêner parce que ce sont des adultes qui travaillent, qui sont en création, et c'est un terrain de jeu formidable. Et puis aussi, surtout, un apprentissage de ce que c'est vraiment que ce métier. Quand vous avez vécu ça, vous voyez bien que vous ne pourrez jamais être ébloui par le miroir aux alouettes, de ne voir que la lumière, qu'on les projecteurs comme ça, qu'on. Vous connaissez l'arrière-cour de tout ça. C'est important.
Et c'est un théâtre très exigeant que vous découvrez l'été dans cette maison.
Oui, ils jouaient. Alors ça, c'était. Il y avait une pièce classique. Hein, ça pouvait être Don Juan. Enfin, je me souviens de maman qui a joué Elvire dans Don Juan avec mon beau-père Benoît Brionne qui jouait Don Juan. Il y avait une pièce écrite un peu sur le thème justement de cette région-là. Et puis il y avait un autre spectacle plus moderne. Voilà. Donc il y avait un peu de tout. Je me souviens que Pascal Rambert était venu montrer un Léon Séléna, je me souviens, qui était très beau, avec cet acteur incroyable, Richard Fontana, qui est mort assez tôt. Donc, oui, vie de troupe de théâtre, vraiment, comme. Je pense que ça ne changeait pas depuis l'illustre théâtre de Molière. Hein. Je pense que c'était la même chose.
Et donc, vous passez de la. De vous aider pour tout avec votre sœur Valentine.
Alors, Valentine était moins. Valentine, elle restait parce qu'on était logés chez des gens qui avaient des chevaux. Et Valentine a toujours adoré les chevaux. Donc, elle restait. Ça l'intéressait moins. Moi, je faisais des pieds et des mains pour venir à toutes les répétitions, pour m'incruster dans tout. Voilà. Moi, je voulais absolument voir tout. Je mettais dans les gradins et je regardais. J'adorais ça.
Y voir la lumière, Emmanuelle De Vos, sur votre mère, l'actrice Marie Henriot, la voir sur scène vous procure quoi? Est-ce que ça donne envie? À cet endroit-là, on avait l'air d'y être heureuse.
Il y a une scène marquante dont je me souviens encore très très bien. C'est que, alors là, j'avais pas 10 ans, je pense que j'avais même 6 ans, où je la vois pour la première fois sur scène. Et je vois, maman est très grande, très belle, et je la vois. Elle a l'air plutôt bien là où elle est. Et puis, elle salue à la fin. Et c'est un peu anormal hein, de voir sa mère comme ça. Hein. Et elle ne vous appartient plus. Et moi, j'étais extrêmement possessive avec maman. Et je suis allée la rejoindre sur scène. Parce que je pense à la fois attirée comme un papillon par cette lumière. Elle avait une robe blanche, puis bon, les projecteurs, machin. Mais aussi pour la récupérer. Je pense que c'est les deux. Cette dualité de à la fois, moi aussi, je veux les applaudissements et la lumière, mais en même temps, je veux récupérer ma maman parce que, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais c'est pas normal. Elle ne vous appartient pas. Vous tous, public.
Vous c'est désirez ma maman. Être.
Ça. C'est ma maman. Donc, psychanalytiquement, on peut s'interroger pendant des heures sur cette vocation qui naît parce que vous voyez votre mère sur scène.
En tout cas, vous désirez être là où elle était.
Oui. Oui, je ne veux pas la lâcher une seconde.
Votre mère, elle aimait jouer. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous vous dites qu'elle aimait jouer peut-être différemment de vous? C'est plutôt, elle, l'esprit de troupe qu'elle adorait faire?
Ah, maman, oui. Maman, c'est vraiment l'esprit. Il y a encore 3 ans, elle a joué encore. Et j'ai vu, quoi, ça la met en joie. Elle a rejoué avec des amis une pièce de Beckett. Elle était absolument transfigurée. Elle adore ça. Elle adore jouer, mais peut-être le plus important, c'est la compagnie des autres, des acteurs. Elle adorait cette vie de troupe, de faire à manger pour tout le monde, discuter jusqu'à pas d'heure. Elle adore ça. Ouais, ça a été. Je pense pas qu'elle refusait beaucoup de choses. Hein. Elle était très exigeante. Elle était marrante. À un moment, on avait vraiment, mais pas beaucoup d'argent. Ce qu'on sentait pas. Hein. D'abord, c'est des époques où il n'y avait pas. Voilà, les biens matériels n'étaient pas si importants. Dans les années 70, c'était quand même un peu plus détendu de ce côté-là. Et je me souviens qu'elle avait refusé une publicité pour du savon. Parce qu'elle ne voulait pas faire de publicité. Très belle femme. Hein. Elle était très, très belle. Mais elle voulait pas, parce que on fait pas de publicité. C'est comme ça. Elle a une éthique très très forte. C'est quelqu'un qui arrache les pages de son Télérama, qui arrache les pubs hein, dans son Télérama qu'elle reçoit toutes les semaines. Elle arrache les publicités. Donc elle avait une éthique comme ça, puis elle voulait pas. Elle aurait pu tourner plus, je pense, mais elle voulait pas nous laisser parce que quand même on vivait toutes les trois. Quoi. Il y avait pas mon père était pas vraiment là. Et voilà. Et puis elle ne voulait pas jouer des rôles qui lui déplaisaient. Donc elle a assez peu travaillé finalement, mais on peut la voir dans un film de Truffaut. Elle a une scène dans Domicile conjugal. On la voit dans toute sa splendeur.
Et vous, Emmanuel De Vos, vous vous imaginiez jouer quoi ? Plein de rôles au théâtre ?
Alors moi, je voulais complètement autre chose. Je me disais, non, alors moi, ce que je veux, c'est des premiers rôles au théâtre. Moi, je veux travailler très souvent, pas comme maman. J'avais déjà tout un petit... J'avais un petit cahier des charges assez précis. J'avais un truc complètement débile. Je voulais pas être trop grande. Je priais pour pas trop grandir parce que maman, un jour, avait dit, elle fait 1m74. Et elle a dit, oui, mais j'ai fait... Elle avait eu un rendez-vous, mais on lui avait dit, non, mais vous êtes trop grande. Vous êtes trop grande. Et dans ma tête, je me dis, bon, alors, si on est trop grande, on va rater des rôles. Donc, il faut pas que je sois trop grande. Et je pense que ça a marché parce que je ne fais 1m70. Contrairement. C'est complètement stupide. Mais bon... J'avais des trucs comme ça. Mais je sais que je voulais vraiment jouer très vite des grands rôles. Au théâtre, hein, parce que je pensais que théâtre. Ce que j'ai pas eu. Hein. J'ai pas joué les plus grands rôles au théâtre. On a joué certains, mais pas tous.
Donc ce qui vous attire, c'est, encore une fois, l'amour des beaux textes et aussi le talent de certains acteurs
Oui. Quand vous êtes jeune. Ah, oui, voir un grand acteur quand on est en pleine construction comme ça... C'est très. J'ai le souvenir, donc à 15 ans, j'ai vu, 15 ou 16 ans, je sais plus, j'ai vu Platonov de Tchekhov avec Nils Arestrup et Anne Alvaro. Et vraiment, ça. Voir Anne Alvaro dans ce rôle, ça m'a. Nils Arestrup aussi, hein, mais bon, Anne Alvaro, c'est une femme, donc il y avait plus d'identification, mais ça m'a. Vous savez, vous voyez des spectacles, vous dites, bon d'accord, c'est bien, vous avez un spectacle, c'est formidable. Puis tout d'un coup, vous voyez un acteur dans la pleine possession de son art, de ses moyens, de son charme, de son énergie, et vous dites, ah, c'est ça être acteur, oui d'accord. Comme si vous voyez des films, hein, on voit Rabbi Jacob, on voit des films d'enfants, puis tout d'un coup, vous voyez Barry Lyndon. Et là, vous dites, ah mais non, mais c'est ça le cinéma. D'accord, j'avais pas compris avant c'était rigolo, mais là... tout d'un coup on monte d'un cran, on monte dans une autre dimension. Et je me souviens très bien de ce spectacle. C'était une mise en scène de Gabriel Garand d'ailleurs, qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Et là oui, ça cristallise quelque chose. Je lui dis, ah oui, moi je veux arriver à ça.
Vous vous dites, je veux arriver à cette force là,
oui,
sur scène.
Oui, je veux arriver à pas faire exactement ce qu'elle fait, mais je veux arriver à ça. Il faut il faut arriver à ce niveau là c'est ça qui est important. Après, je l'ai revue dans d'autres spectacles. Elle m'a toujours fait énormément d'effets. C'est pour ça que j'étais très contente quand je l'ai vue dans le film d'Agnès Jaoui, Le goût des autres, où elle est sur scène à un moment, elle est filmée, et où elle fait toujours le même effet.
Quand on la voit sur scène, par exemple, Anne Alvaro, dans le Tchekhov dont vous parlez, Emmanuel De Vos, est-ce qu'on se dit, à l'âge que vous aviez à ce moment-là, vers 15 ans, je veux aussi avoir cette féminité-là ? Est-ce qu'on pense à ces choses-là ? Ou est-ce qu'on n'est que sur la force, sur la scène ? On veut être une actrice comme elle ? Mais est-ce la question de la féminité est importante à ce moment-là ?
Non, j'y pense pas du tout. C'est très asexué, tout ça. Oui, oui. Non, je suis trop... Alors là, pour le coup, moi, j'étais une enfant non-genrée, hein, dans mes pensées, dans mes... Mais parce que, élevée comme ça, parce que, très étonnamment, dans les années 70... Et on l'a perdu après, c'est pour ça que maintenant on est obligé d'y revenir. Mais après 68, il y a eu un gros ménage de faits, c'est ce qui on se posait même pas la question. Je me souviens de profs de maths disant, mais enfin, c'est pas parce que vous êtes une fille que vous ne pouvez pas accéder à maths sup, maths spé ou des choses comme ça. Enfin, mais même dès l'enfance, les jouets étaient beaucoup moins genrés. Moi, j'ai des souvenirs, on était tous habillés pareil. On avait tous nos kickers, nos jeans en velours côtelé, le sac US Army. Et personne se posait la question de... Après est venue une sorte de sexualisation des petites filles avec des strings, des trucs effrayants, les couleurs roses immondes. Mais dans ma prime jeunesse, on était très, très, très détendus avec ça. Hein. C'est fou qu'on l'ait perdu. Hein. Et les profs nous poussaient. Hein. Ils passaient notre temps à nous dire ça. Ce n'est pas parce que vous êtes une fille que vous allez... tout le monde fait du sport. Il est hors de question de dire que je suis une fille, je n'ai pas à faire de foot. Tout le monde fait du foot. Et j'étais dans un quartier assez old-fashioned. Hein. C'était un peu septième. Mais non, ils étaient... L'éducation était comme ça. On avait de la chance d'être éduquée comme ça. Hein. Donc, la question de la féminité, j'y pensais pas du tout.
C'était pour la présence plutôt sur scène.
Ouais,
et
ouais.
Vous avez fini par jouer Plateau 9 en 2015, un rôle pour lequel vous obteniez un Molière. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent?
On sent un... Je m'étais dit, si je ne joue pas une pièce de Tchekhov, un rôle dans une pièce de Tchekhov avant la fin de ma carrière, j'aurais raté ma carrière. C'était inimaginable. C'est arrivé un peu tardivement. Mais c'est arrivé. Et tant mieux. Tchekhov, c'est la quintessence de l'auteur pour les acteurs. Je trouve que c'est vraiment... je dis toujours ça, c'est l'ami des acteurs. C'est pas si facile à jouer, mais quand vous commencez à tenir quelque chose, ça vous transporte, c'est fantastique. C'est d'une humanité, c'est de l'humanité en barre. Il faut que être dans une vérité tout le temps. Dès que vous commencez à faire la maline avec le texte, ça marche pas, il résiste à toutes les mises en scène les plus improbables. C'est un immense humaniste, au-delà d'un... Puis c'est le premier auteur moderne. Vous pouvez faire des grimaces en jouant Tchekhov, quoi. Vous pouvez faire un peu... Vous êtes très très libre et très tenu par une histoire et tout ça, mais quand même, c'est passionnant à jouer, qu'on pouvait jouer. En plus, j'ai eu la chance de le jouer 90 fois, donc vraiment le temps d'explorer vraiment la pièce et le personnage d'Anna Petrovna. Ouais. Et j'ai rejoint Anna Alvaro c'était comme une boucle, ouais, qui ne sait pas faire, mais j'espère. C'est juste un petit looping. Mais ouais, c'était drôle qu'on me le propose.
Merci, Emmanuelle De Vos. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Johanna Bedeau avec Emmanuelle De Vos. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Patrick Muller, attaché de production Daphné Abkrad, coordination Sandrine Prémer. À voix nue, déjà disponible en intégralité sur franceculture.fr et l'appli Radio France.